Crédit immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. C'est une journée spéciale énergie que vous propose RFI. Dans 30 minutes, nous parlerons ensemble du développement des énergies renouvelables. Nous sommes, vous le savez, dans un contexte de crise énergétique mondiale, dans un contexte de changement climatique. Où en est l'Afrique dans le développement des énergies propres? C'est la question que je vous pose ce matin. Vous êtes sur place, appelez-nous, dites-nous ce qu'il en est dans votre pays. Constatez-vous une prise de conscience, comment favoriser les investissements dans les énergies renouvelables? La question mérite d'être débattue, d'autant que le continent dispose d'un énorme potentiel dans ce domaine. Je pense évidemment au solaire, le soleil évidemment. Pourtant, quand on regarde les chiffres, le gaz, le charbon, le pétrole représentent 75% de l'électricité produite en Afrique. On en parle donc ce matin. Vos réactions, vos témoignages et vos analyses, 33 9 693 693 70. Et comme tous les jours évidemment, on vous attend sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information. Eh bien, on se fait un plaisir de vous répondre. Et Amadou nous a appelé de Guinée. Il a des questions sur le sort des 230 migrants de l'Ocean Viking qui ont pu débarquer vendredi en France après avoir passé quasiment 3 semaines en mer à la recherche d'un port d'accueil. On vous en a beaucoup parlé sur notre antenne. Bonjour Amadou. Ah, Rachid, pardon, bonjour, autant pour moi. Bonjour Rachid.
Ah, ok.
Soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Merci de nous
Merci
appeler.
Merci à vous.
De Haute-Guinée.
Merci. Voilà,
on vous
dans
écoute.
La ville Saint-Elazoumental.
Très bien, on vous écoute.
Ok, permettez-moi avant de dire bonjour à nos millions d'auditeurs de la grande radio inégalable de tous les restes du monde.
Oh, que d'encouragement, merci infiniment de votre fidélité. Okay. Rachid, quelles sont vos questions?
Ok, Juan, j'ai entendu dans vos zones, l'océan Viking a finalement accosté au port de Toulon, avec 230 migrants à bord. Le ministre de l'Intérieur français parle d'un accueil exceptionnel. Pourquoi?
Ensuite, oui.
Quelles sont les conditions d'accueil de ces migrants?
Oui, alors ils sont 234 pour être précis, 177 adultes, 57 mineurs, dont 44 non accompagnés. Bonjour Amara Makoul.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef d'InfoMigrants, site d'information destiné aux migrants, dont France Média Monde est partenaire. C'est... J'ai envie de dire enfin la fin du calvaire pour ces 230 personnes qui ont passé 3 semaines en Méditerranée à ne pas savoir où elles allaient pouvoir débarquer. La France a précisé que l'autorisation d'accoster a été donnée à titre exceptionnel. Comment expliquer les propos du ministre de l'Intérieur?
Eh bien parce que c'est réellement une situation exceptionnelle, puisque la France n'est pas du tout une porte d'entrée maritime pour les migrants. On voit des migrants arriver aux frontières terrestres, notamment la frontière sud avec l'Italie et en Espagne également, mais pas du tout par la mer. Et donc ce qui s'est passé avec l'Ocean Viking cette fois risque en plus de se reproduire, parce que la situation en Italie où on a vu l'extrême droite arriver au pouvoir c'était déjà le cas entre juin 2018 et septembre 2019. Matteo Salvini, un ministre de droite très anti-migrant, avait bloqué pendant toute cette année-là des navires d'ONG, les avait aussi empêchés de repartir en mer. Et donc c'est en prévision, je suppose, de l'avenir que Gérald Darmanin prévient que ce sera la seule fois, il espère, la seule fois qu'il accueille un navire.
Ouais, alors ces migrants se trouvent désormais dans une zone d'attente internationale spécialement créée pour l'occasion. Que sait-on sur leurs conditions d'accueil?
Ben voilà, vous l'avez dit, donc c'est un centre de vacances qui a été établi légalement comme une zone d'attente. Pourquoi une zone d'attente? Parce que ces migrants vont suivre ce qu'on appelle en France et qui est prévu par la loi, la demande d'asile aux frontières. Donc cette demande d'asile, elle est prévue dans tous les postes frontières. Là où il y a des zones d'attente, il y en a 90 en France, donc c'est pas du tout la seule. On en trouve par exemple dans les aéroports. Il y en a une à Roissy qui est plus connue que les autres. C'est là qu'on place les personnes pour lesquelles on a des doutes sur la légalité des papiers, sur la régularité du séjour en France, en attendant de pouvoir vérifier cela. Et donc là, des personnes de l'OFPRA vont venir les interroger.
L'OFPRA, l'Office français de protection de réfugiés et apatrides.
C'est la seule instance qui donne le statut de réfugié. Mais là, ce n'est pas l'entretien pour obtenir l'asile, c'est une audition pour voir si leur demande d'asile est fondée ou non. Et si elle est infondée, eh bien, ces personnes ne seront pas vouées à rester. Les autres pourront entrer sur le territoire français au titre de l'asile.
Au titre de l'asile. Et quand vous dites territoire français, soyons précis, certains seront redéployés dans d'autres pays européens.
Tout à fait, puisque sur ceux qui obtiendront l'asile, il y en a qui seront, on va dire, partagés avec d'autres pays européens. En fait, 80 iront en Allemagne notamment, mais la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, par exemple, ont déjà dit qu'elles en prendraient également.
Et quid de ceux dont la demande sera jugé, selon la formule consacrée, manifestement infondé. On a entendu Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, déclarer qu'ils seront immédiatement renvoyés dans leur pays d'origine depuis cette fameuse zone d'attente. Est-ce que c'est réalisable ?
C'est possible, évidemment, mais c'est compliqué de faire vite. Or, ils ont dit qu'ils voulaient faire rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas rester plus de 26 jours dans une zone d'attente et que les taux de refoulement dans les zones d'attente en France, dans les 90 que j'ai cités, c'est de 60%. Pour renvoyer quelqu'un tout court, déjà là, en zone d'attente, ça s'appelle un refoulement et pas un renvoi. Et pour refouler quelqu'un, il faut qu'il ait une pièce d'identité, son passeport. Or, beaucoup de migrants voyagent sans leur passeport. Et puis, il faut que son pays d'origine délivre un laissez-passer consulaire. Or, c'est ça souvent qui prend beaucoup de temps. Donc, il arrive souvent que ça prenne plus que 26 jours pour pouvoir obtenir les conditions d'un renvoi. Et même, ça arrive qu'on ne les obtienne pas.
Ouais. Voilà. On rappelle quand même que les rescapés de l'Ocean Viking sont majoritairement originaires du Bangladesh, d'Érythrée, de Syrie. Certains viennent d'Égypte.
Pakistan et d'Égypte.
D'Égypte et même du Mali, ouais, selon nos informations. Rachid, a-t-on répondu à vos questions ?
Vraiment, Juan, je suis entièrement satisfait.
Eh bien, remercier surtout Amara Makoul, rédactrice en chef du site Infomigrant.
Ok, merci et bonne journée à vous.
Bonne journée en Haute-Guinée. À bientôt, Amara Makoul. Merci d'être passé dans ce studio, 9h17 à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour, Lionel.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, Lionel. Vous êtes au Gabon.
Oui, précisément à Libreville.
À Libreville, très bien. Vous avez des questions sur les violences sexuelles dans l'Église de France?
Oui.
On vous écoute, Lionel.
Ah. Oui, la semaine dernière, le cardinal Ricard a annoncé avoir eu un comportement répréhensible envers mineurs. Et je voudrais savoir quelles sanctions judiciaires en court-il.
Oui, les aveux de ce cardinal français qui ont provoqué un nouveau séisme dans l'Église de France. Bonjour Éric Senanc.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant de RFI au Vatican. Le Vatican qui a d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire après les aveux de ce cardinal qui a donc reconnu avoir eu un comportement répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Les faits remontent à il y a 35 ans. Quelles sanctions judiciaires en cours ce cardinal français ?
Eh bien, la première devrait concerner son statut de cardinal, c'est-à-dire ne plus siéger au collège cardinaliste. Jean-Pierre Ricard pouvait élire le pape jusqu'en 2024, année où il aura 80 ans, mais la gravité des faits qu'il a commis devrait lui retirer ses prérogatives, comme de siéger aussi dans plusieurs dicastères, ce sont des sortes de ministères au Vatican, où comme d'autres cardinaux, il a un rôle de consultant. Le deuxième type de sanction sera lié à l'enquête proprement dite, qui le vise, une enquête vaticane qui n'aura lieu qu'une fois celle de la justice française achevée, puisque le parquet de Marseille, vous le savez, a ouvert une plainte au civil. Et là, les sanctions peuvent être beaucoup plus graves, puisqu'elles peuvent aller jusqu'au renvoi de l'État clérical. C'est la peine la plus lourde prévue dans le droit canonique.
Donc, à suivre concernant cet aspect, ce volet de l'affaire. Une autre question, Lionel ?
Oui, quels sont les moyens mis en place par l'Église pour enquêter sur ce scandale ? Ah. Trop nombreux dans l'institution.
Oui, des scandales qui éclatent, qui secouent effectivement les différentes églises à travers le monde. Éric Senanc, que fait concrètement le Vatican ?
Eh bien, au Vatican, c'est le fameux dicaster pour la doctrine de la foi qui est en charge de ces dossiers. Il s'occupe des questions conformes au dogme, hein, à la foi catholique, c'est l'héritaire de l'Inquisition. Mais il possède également une section disciplinaire, dont le pape François a d'ailleurs renforcé récemment l'autonomie. Et cette dernière section est en charge de traiter les crimes les plus graves dans l'Église, parmi lesquels la pédophilie ou les abus sexuels. Et même s'il n'a cessé de se renforcer ces dernières années, ce bureau, qui emploie une vingtaine de personnes, a des moyens qui restent encore assez limités en raison du nombre de dossiers qui arrivent du monde entier. Il y a en effet un peu plus d'un millier de plaintes par an qui arrivent à Rome, essentiellement d'Amérique du Nord, d'Europe ou encore d'Amérique latine. Alors quand un scandale éclate, le Vatican peut aussi envoyer une mission dans un pays, comme cela a été le cas au Chili il y a quelques années par exemple, pour recueillir les témoignages des victimes notamment, la doctrine de la foi qui peut aussi ouvrir sa propre enquête, et c'est le cas donc avec le cardinal Ricard, puisqu'une enquête préliminaire a été annoncée par le Saint-Siège.
En tout cas, je retiendrai ce chiffre, hein. Un millier de plaintes qui arrivent chaque année à Rome concernant des violences sexuelles. Il y a une question qui se pose, Éric Sonnang, vous qui êtes sur place, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. Est-ce que le pape François était au courant des agissements de ce cardinal français ?
Eh ben, c'est la question que tout le monde se pose ici à Rome. La presse française a révélé que la victime du cardinal Ricard avait directement écrit au souverain pontife il y a 5 ans déjà, en 2017, mais qu'elle n'avait pas obtenu de réponse. Il est difficile de savoir si François a lu cette missive, car il reçoit des centaines de lettres du monde entier chaque semaine. Devant le silence du pape, la victime du cardinal Ricard avait été écrite au mois de février dernier au nonce apostolique en France, le représentant du Saint-Siège, et n'a reçu un accusé de réception qu'au mois d'octobre, il y a quelques semaines seulement. On le voit, si la justice a progressé pour traiter les scandales de crimes sexuels dans l'Église, le temps, lui, est encore très long, surtout pour les victimes.
Donc la victime a bien écrit au pape. Effectivement, je précise quand même qu'en France, aucune plainte n'a été déposée contre le cardinal Ricard. Affaire à suivre, bien évidemment. Lionel, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan. Très satisfait.
Eh bien, tant mieux. Bonne journée à Libreville et un grand merci à Éric Sonnang, correspondant de RFI au Vatican. Je suis ravi d'accueillir Françoise Coste. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Françoise Coste. Vous êtes professeure à l'Université Toulouse 2, spécialiste de la droite américaine et du Parti républicain. On s'est permis de vous appeler ce matin car Ibrahima, qui est à Riyad, en Arabie Saoudite, a des questions à vous poser. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Monsieur Wan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Et vous souhaitez que l'on revienne sur les élections de mi-mandat aux États-Unis ?
Exactement. Le républicain Ron DeSantis a été élu avec 60% comme gouverneur de la ville de Floride. Et pourquoi Monsieur Wan est-il considéré aujourd'hui comme le challenger direct de Donald Trump pour les prochaines élections ?
Ah oui, Ron DeSantis, personnellement je ne le connaissais pas. Jusqu'à sa grande victoire il y a quelques jours en tant que gouverneur de Floride avec un score historique, quasiment 60% des suffrages. Françoise Coste, pourquoi est-il désormais considéré comme le principal rival de Donald Trump ?
Il était déjà sur les radars avant l'élection de la semaine dernière. Mais c'est vrai que la façon dont il a été réélu, avec 20 points d'avance quasiment, plus d'un million de voix d'avance sur sa challenger démocrate, dans un État, la Floride, dont on parle tous les 4 ans parce que c'est un État clé, c'est tellement un État qui compte dans le collège électoral lors des élections présidentielles. Voilà, tout ça fait que, en plus il est jeune, il a à peine 44 ans.
Oui, 44 ans.
Donc c'est vraiment lui qui... C'est lui qui a attiré toute la lumière après les élections de la semaine dernière en incarnant la jeune garde républicaine qui a l'air de tout écraser sur son passage.
Donc le fait d'avoir été réélu avec quasiment 20 points d'avance sur son adversaire démocrate le place comme étant l'étoile montante des républicains quand on sait que Donald Trump, lui, il a prévu une grande annonce, en tout cas c'est ce qu'il dit, une annonce très importante, ce sont ses propos. Du coup, ça en fait un... Ron DeSantis risque de faire de l'ombre à l'ancien président américain ?
Alors, c'est ce qu'une grande partie des médias américains semblent penser, mais encore plus important, c'est ce qu'une grande partie des leaders du Parti républicain semblent penser aussi. En particulier, on l'a vu depuis une semaine, les choses se passent très vite, beaucoup de donateurs du parti, donc les financiers, ceux qui donnent les fonds pour financer des campagnes électorales, et on sait qu'une campagne présidentielle, c'est des centaines de millions de dollars. Donc, il faut récolter beaucoup d'argent et il faut commencer très à l'avance. Et déjà depuis une semaine, on voit que beaucoup de donateurs historiques du parti se tournent vers DeSantis pour lui pour lui ouvrir leur carnet de chèques.
Bon, bah écoutez, on va suivre ça. Retenez bien son nom, Ron DeSantis, 44 ans. Pour l'instant, il n'a rien dit sur ses intentions concernant la présidentielle de 2024. Et on suivra évidemment, puisqu'on en parlait à l'instant, la grande annonce du jour, celle promise par Donald Trump. Merci infiniment, Françoise Coste, d'avoir été avec nous ce matin, professeur à l'Université Toulouse 2, spécialiste de la droite américaine. Et un grand merci évidemment à Ibrahima qui nous écoute visiblement tous les jours à Riyad, en Arabie Saoudite. Allez, une dernière question pour mieux comprendre l'actualité. On va revenir sur cet attentat qui a frappé Istanbul dimanche après-midi. Je vous rappelle le dernier bilan. Dernier bilan des autorités. 6 morts, 81 blessés. Bonjour Christian.
Bonjour Juan, bonjour à Guillaume et bonjour à tous les fervents auditeurs qui suivent méticuleusement l'émission Appel sur l'actu.
Eh bien, merci à vous. Vous faites partie de ces auditeurs. On vous en remercie. Christian, quelles sont vos questions ?
Oui, bien merci. Le gouvernement turc a annoncé l'arrestation de 50 personnes suite à l'attentat survenu dans les centres d'Istanbul ce week-end. Pourquoi les autorités accusent-elles les DKK d'être derrière cet acte alors qu'il n'y a eu aucune revendication ?
Oui. Bonne question. Le PKK dans le collimateur effectivement des autorités turques. Guillaume Perrier, bonjour.
Bonjour.
Christian, notre auditeur, vous saluez déjà avant même que je vous présente. Vous êtes spécialiste de la Turquie, journaliste au Point. Et on vous doit cet ouvrage publié récemment aux éditions Grasset. Les loups aiment la brume, une enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe. Cette attaque a eu lieu il y a quasiment 48 heures. Elle n'a toujours pas été revendiquée. Et pourtant, pour Ankara, il n'y a pas de doute, ce sont les Kurdes du PKK.
Oui, alors faut savoir que c'est souvent un réflexe un peu atavique parmi les autorités turques d'accuser les Kurdes du PKK. Alors c'est vrai que le PKK a commis à plusieurs reprises des attentats sur le sol turc ces dernières années, depuis une quarantaine d'années que cette guerre dure contre l'État turc. Mais ça n'est pas le seul groupe terroriste à agir sur le sol turc. Il y a eu par le passé des attentats commis par des groupes djihadistes, par d'autres groupes terroristes. Donc, c'est vrai que les autorités ont été très très rapides à accuser la rébellion kurde. Il y a eu une cinquantaine d'arrestations, une femme qui a été arrêtée, originaire de Syrie. Donc, le lien a été très rapidement fait. L'enquête a été menée tambour battant, ce qui peut paraître un peu surprenant quand on suit les affaires judiciaires turques. Et il faut dire aussi que ces arrestations et cette découverte tombe assez bien pour le gouvernement turc qui cherchait depuis des semaines, des mois, un prétexte pour relancer sa guerre contre cette rébellion kurde dans le nord de la Syrie.
Le PKK, en tout cas, dément toute implication dans cet attentat. Je vous lis une partie de son communiqué. « Il est bien connu que nous ne visons pas les civils et rejetons les actions qui le font ». Il est crédible ce communiqué selon vous, Guillaume Perrier ?
Non, je dirais que bon, il faut évidemment prendre avec énormément de distance ce type de justification. On a eu par le passé des démentis de la part du PKK, ce qui n'a pas empêché qu'une partie de ses militants se trouve derrière d'autres actes terroristes. Donc tout ça doit être prendre avec beaucoup de recul. Il y a aussi au sein du PKK évidemment plusieurs courants, plusieurs factions. C'est assez nébuleux comme organisation et il est toujours un peu difficile de savoir qui parle exactement quand il y a ce type de communiqué.
Christian a une dernière question à vous poser. Il nous reste une petite minute. Christian.
Tout à fait. Cela faisait 6 ans qu'Istanbul n'avait pas été la cible d'une attaque terroriste. Comment l'expliquer ?
Guillaume Perrier, quelle est votre analyse ?
Les attaques terroristes interviennent souvent en Turquie dans des contextes politiques particuliers, dans des contextes politiques troubles, dans des périodes électorales aussi, souvent, dans des périodes d'incertitude politique. Et là, en ce moment, c'est vrai que la Turquie traverse une de ces crises, à la fois sur le plan politique, économique, et puis avec des élections qui sont prévues en juin prochain. Donc tout ça favorise malheureusement ce type d'action.
Merci de ce décryptage. Guillaume Perrier, spécialiste de la Turquie. « Les loups aiment la brume », livre à lire, une enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe. Merci infiniment, Christian. Bonne journée à bouc à vous. D'autres questions à la rédaction demain matin. D'ici là, appelez-nous. N'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. contacter. Faites-le tout au long de la journée. On a besoin de connaître forcément vos questions avant de commencer l'émission pour contacter nos envoyés spéciaux, nos correspondants et nos experts un peu partout à travers le monde. Il est 9h30 à Paris.